Deux, trois commerces. Chapitre 3. Il ne faut pas se clouer si fort à ses humeurs et complexions. Notre principale capacité, c'est savoir s'appliquer à divers usages. C'est être. Mais ce n'est pas vivre que se tenir attaché et obligé par nécessité à un seul train. Les plus belles âmes sont celles qui ont plus de variété et de souplesse. Voilà un honorable témoignage du vieux Caton. Son génie était si souple et si également apte à toute chose que, quoi qu'il fît, il semblait être né uniquement pour cela. Si c'était à moi à me dresser à ma mode, il n'est aucune si bonne façon où je voulusse être fiché pour ne m'en savoir déprendre. La vie est un mouvement inégal, irrégulier et multiforme. Ce n'est pas être ami de soi, et moins encore maître. C'est en être esclave de se suivre incessamment et être si pris à ses inclinations qu'on en puisse fourvoyer, qu'on ne les puisse tordre. Je le dis à cette heure, pour ne me pouvoir facilement dépêtrer de l'importunité de mon âme en ce qu'elle ne sait communément s'amuser, sinon où elle s'empêche, ni s'employer, que bandée et entière. Pour léger sujet qu'on lui donne, elle le grossit volontiers et l'étire jusqu'au point où elle est à s'y embesogner de toute sa force. Son oisiveté met à cette cause une pénible occupation et qui offense ma santé. La plupart des esprits ont besoin de matières étrangères pour se dégourdir et exercer. Le mien en a besoin pour se rasseoir plutôt et séjourner. Les vices de l'oisiveté doivent être dissipés par le travail. Car sa plus laborieuse et principale étude, c'est s'étudier soi. Les livres sont pour lui du genre des occupations qui le débauchent de son étude. Aux premières pensées qui lui viennent, il s'agite et fait preuve de sa vigueur à tous sens, exerce son maniement tantôt vers la force, tantôt vers l'ordre et la grâce, se range, modère et fortifie. Il a de quoi éveiller ses facultés par lui-même. Nature lui a donné, comme à tous, assez de matière sienne pour son utilité et des sujets propres à ses ou inventés et jugés. Le méditer est une puissante étude et pleine, à qui sait se tâter et employer vigoureusement. J'aime mieux forger mon âme que la meubler. Il n'est point d'occupation ni plus faible ni plus forte que celle d'entretenir ses pensées selon l'âme que c'est. Les plus grandes en font leur vacation, elles pour qui vivre, ses pensées. Aussi la nature favorisée de ce privilège, qu'il n'y a rien que nous puissions faire si longtemps, ni action à laquelle nous nous adonnions plus ordinairement et facilement. C'est la besogne des dieux, dit Aristote, de laquelle naît et leur béatitude et la nôtre. La lecture me sert spécialement à éveiller par divers objets mon discours, à embesogner mon jugement, non ma mémoire. Peu d'entretien, donc, m'arrête sans vigueur et sans effort. Il est vrai que la gentillesse et la beauté me remplissent et occupent autant ou plus que le poids et la profondeur. Et d'autant que je sommeille en toute autre communication et que je n'y prête que l'écorce de mon attention, il m'advient souvent, en telle sorte de propos abattus et lâches, propos de contenance, de dire et répondre des songes et bêtises indignes d'un enfant et ridicules, ou de me tenir obstiné en silence, plus ineptement encore et incivilement. J'ai une façon rêveuse qui me retire à moi, et d'autre part une lourde ignorance et puérile de plusieurs choses communes. Par ces deux qualités, j'ai gagné qu'on puisse faire au vrai 5 ou 6 comptes de moi, aussi niais que d'autres, quels qu'ils soient. Or, suivant mon propos, cette complexion difficile me rend délicat à la pratique des hommes. Il me les faut trier sur le volet, et elle me rend incommode aux actions communes. Nous vivons et négocions avec le peuple. Si sa fréquentation nous importune, si nous dédaignons à nous appliquer aux âmes basses et vulgaires, et les basses et vulgaires sont souvent aussi réglées que les plus déliées, et toute sapience est insipide qui ne s'accommode à l'insipience commune, il ne nous faut plus entremettre ni de nos propres affaires, ni de celles d'autrui, et les publics et les privés se démêlent avec ces gens-là. Les moins tendues et plus naturelles allures de notre âme sont les plus belles, les meilleures occupations, les moins efforcées. Mon Dieu, que la sagesse fait un bon office à ceux de qui elle range les désirs à leur puissance. Il n'est point de plus utile science. Selon qu'on peut. C'était le refrain et le mot favori de Socrate. Mot de grande substance. Il faut adresser et arrêter nos désirs aux choses les plus aisées et voisines. Ne m'est-ce pas une sotte humeur de disconvenir avec un millier à qui ma fortune me joint, de qui je ne me puis passer, pour me tenir à un ou deux qui sont hors de mon commerce, ou plutôt à un désir fantastique de choses que je ne puis recouvrer? Mes mœurs molles, ennemies de toute aigreur et âpreté, peuvent aisément m'avoir déchargé d'envies et d'inimitiés. D'être aimé, je ne dis, mais de n'être point haï, jamais homme n'en donna plus d'occasion. Mais la froideur de ma fréquentation m'a dérobé avec raison la bienveillance de plusieurs qui sont excusables de l'interpréter à autre et pire sens. Je suis très capable d'acquérir et maintenir des amitiés rares et exquises. D'autant que je m'accroche avec si grande faim aux accointances qui reviennent à mon goût, je m'y produis, je m'y jette si avidement que je ne manque pas aisément de m'y attacher et de faire impression où je donne. J'en ai fait souvent heureuse preuve. Aux amitiés communes, je suis quelque peu stérile et froid, car mon aller n'est pas naturel, s'il n'est à pleine voile. Outre ce que ma fortune, m'ayant habitué et affriandé de jeunesse à une amitié seule et parfaite, m'a à la vérité quelque peu dégoûté des autres, et trop imprimé en la fantaisie qu'elle est bête de compagnie, non pas de troupe, comme disait cet ancien. Aussi que j'ai naturellement peine à me communiquer à demi, et avec modification, et cette servile prudence et soupçonneuse qu'on nous ordonne en la fréquentation de ces amitiés nombreuses et imparfaites. Et nous l'ordonne l'on principalement en ce temps qu'il ne se peut parler du monde que dangereusement ou faussement. Aussi vois-je bien pourtant que, qui a comme moi pour sa fin les commodités de sa vie, je dis les commodités essentielles, doit fuir comme la peste ses difficultés et délicatesses d'humeur. Je louerai une âme à divers étages, qui sache et se tendre et se démonter, qui soit bien partout où sa fortune la porte, qui puisse deviser avec son voisin de son bâtiment, de sa chasse et de sa querelle, entretenir avec plaisir un charpentier et un jardinier. J'envie ceux qui savent s'apprivoiser au moindre de leur suite et dresser de l'entretien en leur propre train. Et le conseil de Platon ne me plaît pas, de parler toujours d'un langage magistral à ses serviteurs, sans jeu, sans familiarité, soit envers les mâles, soit envers les femelles. Car outre ma raison, il est inhumain et injuste de faire tant valoir cette telle quelle prérogative de la fortune, et les sociétés où il se souffre moins de disparité entre les valets et les maîtres me semblent les plus équitables. Les autres s'étudient à élancer et guider leur esprit, moi à le baisser et coucher. Il n'est vicieux qu'en extension. Tu racontes la généalogie des Haques et les guerres menées devant la Saint-Ilion, mais à quel prix nous achèterons le vin de Kio, qui chauffera l'eau, qui m'offrira sa maison et à quelle heure, pour que je m'abrite d'un froid digne des Pélignes, tu n'en dis rien. Ainsi, comme la vaillance lacédémonienne avait besoin de modération et du son doux et gracieux du jeu des flûtes pour la flatter en la guerre, de peur qu'elle ne se jetât à la témérité et à la furie, Là où toutes autres nations ordinairement emploient des sons et des voix aiguës et fortes qui émeuvent et qui échauffent à outrance le courage des soldats, il me semble de même, contre la forme ordinaire, qu'en l'usage de notre esprit, nous avons pour la plupart plus besoin de plomb que d'aile, de froideur et de repos, que d'ardeur et d'agitation. Surtout, c'est à mon gré bien faire le sot que de faire l'entendu entre ceux qui ne le sont pas. Parler toujours bandé. Favelar in punta di forchetta. Parler à la pointe d'une fourchette. Il faut se démettre au train de ceux avec qui vous êtes, et parfois affecter l'ignorance. Mettez à part la force et la subtilité. En l'usage commun, c'est assez d'y réserver l'ordre. Traînez-vous au demeurant à terre, s'ils veulent. Les savants chopent volontiers à cette pierre. Ils font toujours parade de leur magistère et sèment leurs livres partout. Ils en ont en ce temps entonné si fort les cabinets et oreilles des dames que si elles n'en ont retenu la substance, au moins elles en ont la mine, à toutes sortes de propos et matières, pour basses et populaires qu'elles soient, elles se servent d'une façon de parler et d'écrire nouvelle et savante. C'est dans ce style qu'elles s'effraient, qu'elles expriment la colère, les joies, les soucis et tous les secrets de leur âme. Quoi de plus ? Au lit, elles font les savantes. Et allèguent Platon et saint Thomas aux choses auxquelles le premier rencontré servirait aussi bien de témoin. La doctrine qui ne leur a pu arriver en l'âme leur est demeurée en la langue. Si les bien-nés me croient, elles se contenteront de faire valoir leurs propres et naturelles richesses. Elles cachent et couvrent leur beauté sous des beautés étrangères. Ces grandes simplesses d'étouffer sa clarté pour luire d'une lumière empruntée. Elles sont enterrées et ensevelies sous l'art, tout entière sortie d'un écrin. C'est qu'elles ne se connaissent point assez. Le monde n'a rien de plus beau. C'est à elles d'honorer les arts et de farder le phare. Que leur faut-il que vivre aimé et honoré? Elles n'ont et ne savent que trop pour cela. Il ne faut qu'éveiller un peu et réchauffer les facultés qui sont en elles. Quand je les vois attachées à la rhétorique, à la judiciaire, à la logique et semblables drogueries, si vaines et inutiles à leurs besoins, j'entre en crainte que les hommes qui le leur conseillent le fassent pour avoir loi de les régenter sous ce titre. Car quelle autre excuse leur trouverais-je ? Baste. Qu'elles peuvent sans nous ranger la grâce de leurs yeux à la gaieté, à la sévérité et à la douceur, assaisonner un nénis de rudesse, de doute et de faveur, et qu'elles ne cherchent point d'interprète aux discours qu'on fait pour leur service. Avec cette science, elles commandent à baguette et régentent les régents et l'école. Si toutefois ils leur fâchent de nous céder en quoi que ce soit, et veulent par curiosité avoir part au livre, la poésie est un amusement propre à leurs besoins. C'est un art folâtre et subtil, déguisé, parlier, tout en plaisir, tout en parade, comme elles. Elles tireront aussi diverses commodités de l'histoire. En la philosophie, de la part qui sert à la vie, elles prendront les discours qui les dressent à juger de nos humeurs et conditions, à se défendre de nos trahisons, à régler la témérité de leurs propres désirs, à ménager leur liberté, à longer les plaisirs de la vie, et à porter humainement l'inconstance d'un serviteur, la rudesse d'un mari et l'importunité des ans et des rides et choses semblables. Voilà pour le plus la part que je leur assignerai aux sciences. Il y a des naturels particuliers, retirés et internes. Ma forme essentielle est propre à la communication et à la production. Je suis tout au dehors et en évidence né à la société et à l'amitié. La solitude que j'aime et que je prêche, ce n'est principalement que ramener à moi mes affections et mes pensées, restreindre et resserrer, non mais pas, Mais mes désirs et mon souci, résignant la sollicitude étrangère et fuyant mortellement la servitude et l'obligation, et non tant la foule des hommes que la foule des affaires. La solitude locale, à dire vérité, m'étend plutôt et m'élargit au dehors. Je me jette aux affaires d'État et à l'univers plus volontiers quand je suis seul. Au Louvre et en la presse, je me resserre et contrains en ma peau. La foule me repousse à moi et ne m'entretient jamais si follement, si licencieusement et particulièrement qu'au lieu de respect et de prudence cérémonieuse. Nos folies ne me font pas rire. Ce sont nos sapiences. De ma complexion, je ne suis pas ennemi de l'agitation des cours. J'y ai passé partie de la vie et suis fait à me porter allègrement ou grande compagnie pourvu que ce soit par intervalle et à mon point. Mais cette mollesse de jugement, de quoi je parle, m'attache par force à la solitude. Voir chez moi, au milieu d'une famille peuplée et maison des plus fréquentées, j'y vois des gens assez, mais rarement ceux avec qui j'aime à communiquer. Et je réserve là, et pour moi, et pour les autres, une liberté inusitée. Il s'y fait trêve de cérémonies, d'assistance et convoiements, et telles autres ordonnances pénibles de notre courtoisie. Oh, la servile et importune usance! Chacun s'y gouverne à sa mode, y entretient qui veut ses pensées, je m'y tiens muet, rêveur et enfermé, sans offense de mes hôtes. Les hommes, de la société et familiarité desquels je suis en quête, sont ceux qu'on appelle honnêtes et habiles hommes. L'image de ceux-ci me dégoûte des autres. C'est à le bien prendre de nos formes la plus rare, et forme qui se doit principalement à la nature. La fin de ce commerce, c'est simplement la privauté, fréquentation et conférence, l'exercice des âmes, sans autre fruit. En nos propos, tous sujets me sont égaux. Il ne me choque qu'il n'y ait ni poids, ni profondeur. La grâce et la pertinence y sont toujours. Tout y est teint d'un jugement mûr et constant, et mêlé de bonté, de franchise, de gaieté et d'amitié. Ce n'est pas au sujet des successions seulement que notre esprit montre sa beauté et sa force, et aux affaires des rois. Il la montre autant aux confabulations privées. Je connais mes gens au silence même, et à leur sourire, et les découvre mieux à l'aventure, à table qu'au conseil. Hippomachus disait bien qu'il connaissait les bons lutteurs à les voir simplement marcher par une rue. S'il plaît à la doctrine de se mêler à nos devis, elle n'en sera point refusée. Non magistrale, impérieuse et importune, comme de coutume, mais suffragante et docile elle-même. Nous n'y cherchons qu'à passer le temps. À l'heure d'être instruits et prêchés, nous l'irons trouver en son trône. Qu'elle se démette à nous pour ce coup, s'il lui plaît, car tout utile et désirable qu'elle est, je présuppose qu'encore au besoin nous en pourrions nous bien entièrement passer et faire notre effet sans elle. Une âme bien née et exercée à la pratique des hommes se rend pleinement agréable d'elle-même. L'art n'est autre chose que le contrôle et le registre des productions de telles âmes. C'est aussi pour moi un doux commerce que celui des belles et honnêtes femmes. Car nous aussi, nous avons des yeux de connaisseurs. Si l'âme n'y a pas tant à jouir qu'au premier, les sens corporels, qui participent aussi plus à celui-ci, le ramènent à une proportion voisine de l'autre, quoique selon moi, non pas égale. Mais c'est un commerce où il se faut tenir un peu sur ses gardes, et notamment ceux en qui le corps peut beaucoup, comme en moi. Je m'y échaudais en mon enfance, et y souffris toutes les rages que les poètes disent advenir à ceux qui s'y laissent aller sans ordre et sans jugement. Il est vrai que ce coup de fouet m'a servi depuis d'instruction. Tous ceux de la flotte argienne qui ont échappé au roc de Caffaré détournent toujours leur voile des eaux de l'Eubée. C'est folie d'y attacher toutes ses pensées et s'y engager d'une affection furieuse et indiscrète. Mais, d'autre part, de s'y mêler sans amour et sans obligation de volonté, en forme de comédien, pour jouer un rôle commun de l'âge et de la coutume, et n'y mettre du sien que les paroles, c'est de vrai pourvoir à sa sûreté, mais bien lâchement, comme celui qui abandonnerait son honneur ou son profit ou son plaisir de peur du danger. Car il est certain que, d'une telle pratique, ceux qui l'adressent n'en peuvent espérer aucun fruit qui touche ou satisfasse une belle âme. Il faut avoir en bon escient désiré ce qu'on veut prendre, en bon escient plaisir de jouir. Je dis, quand injustement fortune favoriserait leur masque, ce qui advient souvent, à cause de ce qu'il n'y a aucune d'elles, pour mal autrui qu'elle soit, qui ne pense être bien aimable, qui ne se recommande par son âge ou par son poil ou par son mouvement, car de laide universellement, il n'en est, non plus que de belle. Et les fibramanes, qui ont faute d'autres recommandations, le peuple assemblé à cri public pour cet effet, vont en la place, faisant montre de leur partie matrimoniale, voir si par là au moins, elles ne valent pas d'acquérir un mari. Par conséquent, il n'en est pas une qui ne se laisse facilement persuader au premier serment qu'on lui fait de la servir. Hors de cette trahison commune et ordinaire des hommes d'aujourd'hui, il faut qu'il advienne ce que déjà nous montre l'expérience. C'est qu'elle se rallie et rejette à elle-même ou entre elles pour nous fuir, ou bien qu'elle se range aussi de leur côté, à cet exemple que nous leur donnons. Qu'elles jouent leur part de la farce et se prêtent à cette négociation sans passion, sans soin et sans amour. Sans se laisser lier ni par leurs propres sentiments, ni par ceux d'autrui. Estimant, suivant la persuasion de Lysias en Platon, qu'elles se peuvent adonner utilement et commodément à nous, d'autant plus que moins nous les aimons. Il en ira comme des comédies. Le peuple y aura autant ou plus de plaisir que les comédiens. De moi, je ne connais non plus Vénus sans Cupidon, qu'une maternité sans engeance. Ce sont choses qui s'entreprêtent et s'entredoivent leur essence. Ainsi, cette piperie rejaillit sur celui qui l'a fait. Il ne lui coûte guère, mais il n'acquiert aussi rien qui vaille. Ceux qui ont fait Vénus déesse ont regardé que sa principale beauté était incorporelle et spirituelle. Mais celle que ces gens-ci cherchent n'est pas seulement humaine, ni même brutale. Les bêtes ne la veulent si lourde et si terrestre. Nous voyons que l'imagination et le désir les échauffent souvent et sollicitent avant le corps. Nous voyons en l'un et l'autre sexe qu'en la presse, elles ont du choix et du triage en leurs affections, et qu'elles ont entre elles des accointances de longue bienveillance. Celles même à qui la vieillesse refuse la force corporelle frémissent encore, hennissent et tressaillent d'amour. Nous les voyons avant le fait, pleines d'espérance et d'ardeur, et quand le corps a joué son jeu, se chatouiller encore de la douceur de cette souvenance. Et en voyons, qui s'enflent de fierté au partir de là et qui en produisent des chants de fête et de triomphe, lasses et saoules. Qui n'a qu'à décharger le corps d'une nécessité naturelle, n'a que faire d'y embesogner autrui avec des apprêts si soigneux. Ce n'est pas viande à une grosse et lourde faim. Comme celui qui ne demande point qu'on me tienne pour meilleur que je suis, je dirai ceci des erreurs de ma jeunesse. Non seulement pour le danger qu'il y a de la santé, pourtant n'ai-je su si bien faire que je n'en ai eu deux atteintes, légères toutefois et préambulaires, mais encore par mépris, je ne me suis guère adonné aux accointances vénales et publiques. J'ai voulu aiguiser ce plaisir par la difficulté, par le désir et par quelque gloire. Et aimait la façon de l'empereur Tibère, qui se prenait en ses amours autant par la modestie et noblesse que par autre qualité. Et l'humeur de la courtisane Flora, qui ne se prêtait à moins que d'un dictateur ou consul ou censeur, et prenait son déduit en la dignité de ses amoureux. Certes, les perles et le brocart y confèrent quelque chose, et les titres et le train. Au demeurant, je faisais grand compte de l'esprit, mais pourvu que le corps n'en fût pas à redire. Car à répondre en conscience, si l'une ou l'autre des deux beautés devait nécessairement y faillir, j'eusse choisi de quitter plutôt la spirituelle. Elle a son usage en meilleure chose. Mais au sujet de l'amour, sujet qui principalement se rapporte à la vue et à l'attouchement, on fait quelque chose sans les grâces de l'esprit, rien sans les grâces corporelles. C'est le vrai avantage des dames que la beauté. Elle est si leur que la nôtre, quoiqu'elle désire des traits un peu autres, n'est en son point que confuse avec la leur, puérile et imberbe. On dit que chez le grand seigneur, ceux qui le servent sous titre de beauté, qui sont en nombre infini, ont leur congé, au plus loin, à 22 ans. Les discours, la prudence et les offices d'amitié se trouvent mieux chez les hommes. Aussi gouvernent-ils les affaires du monde. Ces deux commerces sont fortuits et dépendants d'autrui. L'un est ennuyeux par sa rareté, l'autre se flétrit avec l'âge. Ainsi, ils n'eussent pas assez pourvu aux besoins de ma vie. Celui des livres, qui est le troisième, est bien plus sûr et plus à nous. Il cède au premier les autres avantages. Mais il a pour sa part la constance et facilité de son service. Ce tuissi côtoie tout mon cours et m'assiste partout. Il me console en la vieillesse et en la solitude. Il me décharge du poids d'une oisiveté ennuyeuse et me défait à toute heure des compagnies qui me fâchent. Il émousse les pointures de la douleur, si elle n'est du tout extrême et maîtresse. Pour me distraire d'une imagination importune, il n'est que de recourir aux livres. Il me détourne facilement à eux et me la dérobe. Et aussi ne se mutine point pour voir que je ne les recherche qu'au défaut de ces autres commodités, plus réelles, vives et naturelles. Ils me reçoivent toujours de même visage. Il a beau aller à pied, dit-on, qui mène son cheval par la bride. Et notre Jacques, roi de Naples et de Sicile, qui beau, jeune et saint, se faisait porter par pays en civière, couché sur un méchant oreiller de plumes, vêtu d'une robe de drap gris et un bonnet de même, suivit cependant une grande pompe royale, litière, chevaux à main de toutes sortes, gentilshommes et officiers, représentaient une austérité tendre encore et chancelante. Le malade n'est pas à plaindre, qui a la guérison en sa manche. En l'expérience et usage de cette sentence, qui est très véritable, consiste tout le fruit que je tire des livres. Je ne m'en sers en effet quasi non plus que ceux qui ne les connaissent point. J'en jouis comme les avaricieux des trésors, pour savoir que j'en jouirai quand il me plaira. Mon âme se rassasie et contente de ce droit de possession. Je ne voyage sans livres, ni en paix, ni en guerre. Toutefois, il se passera plusieurs jours et des mois sans que je les emploie. Ce sera tantôt, dis-je, ou demain, ou quand il me plaira. Le temps court et s'en va cependant sans me blesser. Car il ne se peut dire combien je me repose et séjourne en cette considération qu'ils sont à mon côté pour me donner du plaisir à mon heure. Et à reconnaître combien il porte de secours à ma vie. C'est la meilleure munition que j'ai trouvée à cet humain voyage, et plaint extrêmement les hommes d'entendement qui en manquent. J'accepte plutôt toute autre sorte d'amusement, pour léger qu'il soit, d'autant que ce tuissi ne me peut faillir. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où, tout d'une main, je commande mon ménage. Je suis sur l'entrée et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour et, dans la plupart, des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues, Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte, en me promenant, mes songes que voici. Elle est au troisième étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle. Le second, une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être seul. Au-dessus, elle a une grande garde-robe. C'était, au temps passé, le lieu plus inutile de ma maison. Je passe là et la plupart des jours de ma vie, et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. À sa suite est un cabinet assez poli, capable à recevoir du feu pour l'hiver, très plaisamment percé. Et si je ne craignais non plus le soin que la dépense, le soin qui me chasse de toute besogne, j'y pourrais facilement coudre à chaque côté une galerie de 100 pas de long et 12 de large, à plein pied, ayant trouvé tous les murs montés, pour autre usage, à la hauteur qu'il me faut. Tout lieu retiré requiert un promenoir. Mes pensées dorment si je les assis. Mon esprit ne va pas seul si les jambes ne l'agitent. Ceux qui étudient sans livre en sont tous là. La figure en est ronde et n'a de plat que ce qu'il faut à ma table et à mon siège, et vient m'offrant, en se courbant, d'une vue, tous mes livres, rangés sur des pupitres, à 5 degrés tout à l'environ. Elle a 3 vues de riche et libre prospect, et 16 pas de vide en diamètre. En hiver, j'y suis moins continuellement, car ma maison est juchée sur un tertre, comme dit son nom, et n'a point de pièce plus éventée que celle-ci, qui me plaît d'être un peu pénible et à l'écart, tant pour le fruit de l'exercice que pour reculer de moi la presse. C'est là mon siège. J'essaie à m'en rendre la domination pure et à soustraire ce seul coin à la communauté et conjugale et filiale et civile. Partout ailleurs, je n'ai qu'une autorité verbale, en essence, confuse. Misérable à mon gré qui n'a chez soi où être à soi, ou se faire particulièrement la cour, ou se cacher. L'ambition paie bien ces gens, de les tenir toujours en montre, comme la statue d'un marché. C'est une grande servitude qu'une grande fortune. Ils n'ont pas seulement leur retrait pour retraite. Je n'ai rien jugé de si rude dans l'austérité de vie que nos religieux affectent. Que ce que je vois en quelqu'une de leurs compagnies, avoir pour règle une perpétuelle société de lieux et assistance nombreuse entre eux, en quelque action que ce soit, et trouve quelque peu plus supportable d'être toujours seul que de ne le pouvoir jamais être. Si quelqu'un me dit que c'est avilir les muses de s'en servir seulement de jouets et de passe-temps, il ne sait pas, comme moi, combien vaut le plaisir, le jeu et le passe-temps, à peine que je ne dise toute autre fin être ridicule. Je vis du jour à la journée, et parlant en révérence, ne vis que pour moi. Mes desseins se terminent là. J'étudiais, jeune, pour l'ostentation. Depuis, un peu pour m'assagir. À cette heure, pour m'ébattre. Jamais pour le quai. Une humeur vaine et dépensière que j'avais après cette sorte de meuble, non pour en pourvoir seulement mon besoin, mais de 3 pas au-delà, pour m'en tapisser et parer. Je l'épiais ça abandonné. Les livres ont beaucoup de qualités agréables à ceux qui les savent choisir. Mais aucun bien sans peine. C'est un plaisir qui n'est pas net et pur, non plus que les autres. Il a ses incommodités, et bien pesantes. L'âme s'y exerce, mais le corps, duquel je n'ai non plus oublié le soin, demeure cependant sans action, s'atterre et s'attriste. Je ne sache excès plus dommageable pour moi, ni plus à éviter en cette déclinaison d'âge. Voilà mes 3 occupations favorites et particulières. Je ne parle point de celles que je dois au monde par obligation civile.